dans les médias, sur Facebook, sur Twitter, en général, beaucoup sur les réseaux sociaux quand même, il faut le dire, mais aussi parfois dans les rencontres qu'on peut avoir avec des proches. On sait qu'il y a des sujets qui sont difficiles à aborder. On pourrait parler de religion, en particulier par les temps qui courent, de laïcité, puis vous allez voir, essayez-le avec vos amis pour le fun, vous allez voir que vous allumez une mèche en parlant de certains sujets. Politique, c'en est un. Je pense que la politique, on vient de parler de hockey, vous êtes dans certains groupes, vous dites que le Canadien, ce n'est pas bon, vous allez vous faire attaquer solide. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, parfois, dans certains groupes, puis il y a des groupes aussi qui ont tendance, par les temps qui courent aussi, à vouloir tout le temps se parler entre eux. Souvent, c'est les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on entend des voix qui sont très virulentes, sauf si ce qu'elles lisent ou ce qu'elles entendent sont d'accord avec elles. Alors, c'est comme si on se parlait à nous-mêmes, finalement. C'est comme des ghettos de communication, des ghettos communautaires. Je sais pas trop comment les appeler. Nous allons voir ce que mes invités en pensent, mais la question que j'ai envie de vous poser maintenant... Est-ce qu'on peut encore dire ce qu'on pense au Québec? Là, il y a toutes sortes de débats qui ont cours sur plein de sujets. Alors, c'est pas les sujets qui nous manquent. Judith Lucie est journaliste. Elle est auteure du livre « On peut plus rien dire ».
Oui.
Merci, Judith,
bonjour.
D'être là. Tu peux pas être plus dans l'air du temps que ça.
Non, puis j'ai l'impression que c'est un sujet dont tu débats toi-même en étant l'animatrice d'une émission de débat maintenant.
Oui, maintenant, à Zone Franche à Télé-Québec. Mais j'ai trouvé ton ouvrage, ton essai vraiment très intéressant. J'ai appris plein de choses d'abord sur le vocabulaire aussi. Mm-hmm. On va y revenir. Je vais présenter Dany Saint-Pierre, chef bien connu.
Bonjour.
Merci, Dany, d'être là.
Avec plaisir.
Au-delà de ton travail dans la restauration, dans l'alimentaire, tu es quelqu'un de très engagé comme citoyen, qui prend position, qui s'assume. Est-ce
oui.
que tu penses que effectivement on peut pas dire tout ce qu'on pense au Québec aujourd'hui?
Ben, je pense que
c'est touchy.
C'est bien qu'on dise pas tout ce qu'on pense, parce que souvent notre pensée est au premier degré, puis dans nos petites peurs, puis nos petits préjugés. Puis moi, je parle toujours du fait que, est-ce que tu parlerais de cette façon-là à quelqu'un que tu connais? Ou à qui t'es engagé.
C'est comme tu parles des réseaux sociaux, entre autres.
Non seulement des réseaux sociaux, mais en général, c'est rare que tu vas engager une personne en la regardant dans les yeux, dans la rue, puis dire toi, je t'aime pas, toi, t'es laid, toi, t'aimes pas ci, t'es pas de ma gang, tu sais. J'ai l'impression que c'est des blocs qui se frottent ensemble, puis c'est pas des individus. C'est bien qu'on dise pas tout ce qu'on pense.
Mais toi, en général, t'as plutôt une facilité à dire ce que tu penses.
Ben moi, je m'arrange pour que, de un, raffiner ma pensée, pour m'assurer que je dise pas trop de niaiseries, puis que je sois en accord avec le fait que ce soit réfléchi puis pas impulsif. Quand ça a pas d'allure, je le dis. Quand ça a de l'allure, j'essaie d'avoir de l'allure. Je sais pas. Tu sais, je me positionne comme le doute de 42 ans qui est blanc, privilégié.
Tu sais que c'est un très mauvais positionnement.
C'est la pire chose du monde, hein?
Si on part du fait qu'on tient compte justement, il vient de l'exprimer. Je suis un homme blanc de 42 ans, donc je dois faire attention pas à ce que je vais dire, mais à ma compréhension des mm-hmm. sujets. Ça veut dire que je peux pas me mettre dans la peau d'une femme racisée de 24 ans. Ça veut dire qu'il faut que j'ai un certain recul par mm-hmm. rapport à mon discours sur elle, une espèce d'empathie, de compréhension, puis de reconnaître aussi que c'est une expérience que je vis pas moi-même. Donc, je pense que c'est juste, on a l'impression que le terrain est miné puis qu'on peut plus rien dire. Mais en fait, je pense que l'idée, c'est aussi de faire attention à est-ce qu'on comprend vraiment le sujet sur lequel on s'exprime? Est-ce que c'est juste une opinion mâchée comme ça qu'on n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir? C'est sûr qu'après ça, ça donne des résultats peut-être plus hasardeux si on n'a pas l'expertise nécessaire pour s'exprimer.
Dans ton essai, justement, on ne peut plus rien dire. Tu parles du militantisme à l'ère des réseaux sociaux, c'est le sous-titre. Et tu poses la question, est-ce qu'on peut encore dire ce qu'on pense sans être immédiatement cloué au pilori par ceux et celles qu'on appelle les social justice warriors? Toi-même, t'es une de ces social justice warriors.
Oui.
Tu t'es approprié ça.
Oui.
C'est comme un nouveau groupe qu'on commence à connaître un mm-hmm. peu plus, c'est-à-dire ces guerriers de la justice sociale, finalement. Et là, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux et qui ont tendance ils font comme une veille numérique. Mm-hmm. Enfin, dis-moi comment tu vois
ben,
ça.
C'est exactement ça. En fait, c'est des gens qui... c'est une caricature de gens qui sont prompts à s'indigner, qui vont s'obstiner sur les réseaux sociaux, qui vont débattre de sujets, puis qui vont être les premiers à dire « ça, c'est raciste, ça, c'est sexiste ». Ça, c'est la caricature. Moi, je voulais aller au-delà de la caricature pour essayer de comprendre c'est quoi les motivations de ces gens-là. Est-ce que c'est vraiment des oppressions qu'ils arrivent à identifier? Est-ce qu'ils font ça pour le show ou ils font ça parce que vraiment, ils ressentent des injustices, ils voient des injustices et ils veulent les dénoncer? Puis la conclusion à laquelle j'en viens, c'est que probablement ces gens-là ont une compréhension peut-être plus pointue des injustices, puis au moment où ils vont les exprimer, peut-être que ça va sortir de manière maladroite ou agressive, ou peut-être qu'ils vont, ça va sortir avec un manque de pédagogie pour expliquer pourquoi tel commentaire va être homophobe ou grossophobe. C'est des mots aussi qui sont nouveaux. Puis
quand grossophobe, c'est...
Grossophobe, c'est une discrimination envers les personnes qui sont grosses.
Grosse.
Donc, c'est des nouveaux mots, puis on est comme un peu largué parce qu'on comprend pas d'où ça vient. Puis là, je voulais faire vraiment un effort de pédagogie pour montrer, ben voici où se situent ces gens-là, puis d'où ils partent pour arriver avec ces conclusions-là qui nous apparaissent comme étant exagérées.
Mmh. Écoute, c'est intéressant. Il y a toute une partie bleue dans ton... qui est une partie lexical, qui est vraiment comme un nouveau dictionnaire de ces termes qui vont de... Il y a beaucoup d'anglais là-dessus, puis tu le dis toi-même, là, mm-hmm. C'est quand même un courant qui vient de l'anglais. Là.
Oui, puis on pourrait dire que c'est une forme de colonisation de nos esprits, ouais. Ou d'enrichissement, parce qu'effectivement, c'est des vocabulaires qui nous viennent majoritairement des États-Unis, mais c'est des réflexions qui ont eu lieu là, puis qu'on s'approprie d'une certaine façon ici, puis qu'on adapte à notre réalité. Puis c'est des mots que je voulais expliquer, par exemple, t'en as des exemples devant toi.
Ouais. Mais tu sais, racisé, par exemple. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais de Dany, tu as dit, toi, Dany, bon, t'es, lui-même se le disait, gars, 40 ans, 42 mm-hmm. ans, blanc, québécois. En plus, il faudrait que tu rajoutes privilégié.
Ah oui,
ça,
c'est clair.
Ça, souvent, il l'a dit.
Tu as dit privilégié.
Ah, moi, j'avais ma cassette bien placée.
Là. Fait que là, donc, toi, dans cet état-là, oui. En fait, tu peux pas rien. Tu peux plus rien dire.
Ben, je pense que c'est pas parce qu'on peut pas rien dire. Mais je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe.
Mais tu peux pas parler des personnes racisées.
Ben, tu peux en parler. C'est juste que ça prend l'humilité de comprendre que c'est pas une expérience que toi, tu vis.
Je peux en parler avec eux.
Oui, puis tu peux être en mode écoute, puis tu peux...
Mais tu peux juste écouter.
Non.
Mais pourquoi j'en parlerais? Tu sais, admettons...
tu peux juste parler de l'homme blanc.
Je ne suis pas une femme de 26 ans racisée. Mais je peux l'avoir comme amie, par exemple. Moi, souvent, ce que je trouve, c'est qu'il y a des réactions qui sont agressives puis justifiées dans certains cas, qui font qu'il y a une majorité silencieuse qui ferme sa boîte puis qui roule les yeux puis qui dit « Bon, encore. On est encore en train de se faire donner de la merde. Encore. Ouais. » Puis après ça, ces gens-là... Ils se tiennent entre eux dans des forums. Tu sais, mettons, ils vont aller sur TVA Nouvelles, puis là, ils vont tous être dans le même sens, à dire de la merde sur les médias sociaux, puis à se comporter comme des grossiers personnages.
Ouais.
Puis après ça, ben, ces gens-là, ils se retrouvent aussi à voter d'une certaine façon, puis à se dire, ben, on sait bien. Puis là, on se ramasse à cliver, puis c'est pas une conversation, ça.
Mais c'est pour ça que je voulais vraiment prendre le temps avec mon essai de justement expliquer ces tenants et aboutissants-là de la discussion dans laquelle on est en ce moment pour que ces gens-là... Premièrement, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour le monsieur, madame, tout le monde ordinaire qui comprend pas exactement pourquoi le débat est rendu là puis pourquoi on utilise le mot « racisé » au lieu de...
C'est quoi une personne racisée, veux-tu nous dire?
En fait, c'est que la race, c'est un concept sociologique qui n'existe pas vraiment. On est tous de la race humaine. Fait que ça pose problème de dire qu'il y a du racisme, mais en même temps, le racisme existe. On peut pas le nier, mais c'est peut-être pas nécessairement lié à la race. Par contre, les personnes peuvent être racisées, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont victimes du racisme. Comme Isabelle, tu disais que tu pouvais être victime d'un racisme anti-français. Ben, on pourrait dire que tu es une personne racisée.
Oh, j'aimerais tellement.
Un gros panier.
J'aimerais tellement.
Peut-être que ça serait perçu comme d'appropriation. Je sais
peut-être.
Pas.
Est-ce que ça serait une appropriation? Ça serait une appropriation culturelle? Je veux certainement pas m'approprier quelque chose qui m'appartient
que tu
pas.
Peut-être que tu vis pas le racisme.
Étant donné que je suis une blonde privilégiée.
Voilà.
Tu vis peut-être pas le racisme de la même façon que des personnes noires ou des personnes qui portent le voile
en ce
moment.
Mais est-ce que c'est intéressant la discussion parce que ça veut dire est-ce qu'on peut parler que de ce qu'on tu sais normalement puis en le disant là je vais rephraser B parce que j'allais dire est-ce qu'on peut parler seulement de ce qu'on connaît. T'as envie de dire idéalement oui fille parle de ce que tu connais mais est-ce qu'on peut aussi discuter de choses qu'on maîtrise moins parce que le plaisir de la discussion. C'est aussi d'apprendre de l'autre, mais pas tout le temps en étant en mode éducatif, pédagogique, tu comprends?
Pourquoi qu'on est dans ça?
Monologue?
C'est ça la vraie question.
Oui, c'est intéressant.
Parce que là, on se retrouve dans... On est trois personnes sensées, on dit pas mal la même affaire à un certain point, on a plein de lieux communs, puis là, on fait comme, OK, on n'a pas les bons mots pour nommer ça. On n'a pas les... On campe des positions. On est inquiet d'offenser l'autre. On devrait pas s'exprimer sur ça. Mais pourquoi? C'est une conversation, je te pose des questions, tu me poses des questions. J'ai pas le goût de te faire de la peine.
Mais c'est comme si on avait perdu un peu, justement, le sens de la discussion de... d'un côté, on est stressé d'offenser l'autre. Puis de l'autre côté, y a une frustration aussi que notre réalité soit incomprise. Puis là, je voudrais surtout pas envoyer le message qu'on peut plus dire que moi, en tant que femme blanche, par exemple, je peux plus m'exprimer sur les personnes noires ou sur les personnes qui vivent une autre forme d'oppression que moi, je connaîtrais pas. Mais ce que je dis, c'est je pense que ça prend un recul puis de l'humilité quand on fait ça. Moi, ça m'est souvent arrivé que des hommes m'expliquent, par exemple, c'est quoi le féminisme, puis comme...
Ils ont fait du mansplaining
ouais,
avec toi.
Mais ça, c'est
d'où ça vient, mansplaining? Man explaining things to women.
Tout à fait.
Mais ça,
to
ça
me,
veut,
en fait.
Ça, ouais. Ça veut pas dire
ça,
que...
Ça, c'est fatigant.
Ça veut pas dire que les hommes peuvent plus s'exprimer sur le féminisme, mais c'est l'arrogance avec laquelle, des fois, on m'explique ma réalité, alors que je suis comme, tu comprends pas, monsieur.
Écoute, mon premier sujet, là, hockey, là, si vous saviez comme je peux avoir du mansplaining là-dessus, là.
Ouais, mais moi aussi, mais c'est légitime, par contre, parce que je connais vraiment rien à ça.
Mais il y aurait peut-être aussi juste l'idée de se poser la question, comment je fais pour pas être un gros con ou une grosse conne? Mm-hmm. Tu sais, parce que c'est pas mal ça, hein? Tu t'en vas pas dans la rue en insultant les gens puis en disant, tu sais, je vais aller me pogner avec du monde, là. Mm-hmm. Puis il y a des gens qui, c'est vraiment des fuckers. Puis des
ouais,
espèces
des
d'alpha
trolls,
qui ont pas de bon sens.
Ouais,
qui veulent juste se chicaner. Puis, ou un boss pas fin qui veut être un bully. Tu sais, si on change juste le lexique un petit peu puis on se ramène à la cour d'école, on les voit tous, ces gens-là, là, qui ont
absolument.
Des problèmes.
Mais
ils grandissent puis on se ramasse avec eux en général.
Mais c'est toujours le principe du 80-20. Tu penses
oui.
pas, Dani? C'est-à-dire que c'est 20% du monde, max, à peu près. Puis idéalement moins, là.
Oui.
Mais qui sont comme ça, qui sont hors de la courbe centrale, qui sont aux extrémités.
Puis qui accaparent 80% de l'attention.
Qui accaparent, mm-hmm. oui, au moins 80% de l'attention, t'as raison, Judith, mais, et qui dit n'importe quoi. Mais tu sais, tu parles de l'extrême gauche dans ton, mm-hmm. dans ton essai, entre autres, Judith. Il y a de l'extrême droite dont on parle beaucoup, puis sur laquelle on tire beaucoup au Québec, mais il y a aussi une extrême gauche qui est en train de s'installer, mm-hmm. qui, moi, me fatigue autant que l'autre, parce que. Ça reste l'extrême. Puis dans les extrêmes, tu vas trouver du monde qui vont dire n'importe quoi. Des gros mots, tu sais. Regarde Catherine Dorion. Regarde donc, là, ce matin, je dis, ça devient pénible. Vous trouvez pas ça?
Mais moi, je vois pas qu'il y a de la violence dans le discours de Catherine Dorion comme je vois de la violence dans le discours de l'extrême droite, personnellement. Je trouve que je trouve pas qu'au Québec... Je comprends ta crainte par rapport à l'extrême gauche, mais je trouve pas qu'au Québec, il y a une menace liée au discours... de l'extrême gauche. Par contre, je vois beaucoup de violence dans le discours de l'extrême droite. Ben, j'allais un peu documenter dans mon livre. Puis, je veux dire, oui, je reconnais qu'il y a des fois des discours violents, mais vraiment pas de la même portée, puis avec le même rayonnement que le discours de droite. Là. Je m'excuse, mais là-dessus, il n'y a pas d'équivalent. Puis,
t'as raison parce que l'extrême droite, on la connaît, on sait ce qu'ils disent, ouais. on sait qui ils sont, ils ont des noms. L'extrême gauche qui monte au Québec de plus en plus, j'ai l'impression. Puis on va finir par donner raison à Jean-François Lisée si ça continue. Mais c'est qui?
On les voit faire des petits commandos commerciaux, admettons.
Oui, c'est qui est en train de
mettre ça? C'est tout ce qu'on
voit.
Mais
c'est qui?
C'est la seule. C'est vraiment dans mon livre ce que je documente. C'est l'extrême gauche, c'est ça. C'est les commandos anti-bourgeoisie
oui.
Dans les quartiers Hochelaga-Maisonneuve.
C'est du monde qui garoche des briques dans des commerces à Hochelaga.
Oui, c'est-tu
pacifique, ça? Ou c'est du monde violent aussi?
Non, mais. Non, c'est pas pacifique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un phénomène 100 fois plus marginal. Il n'y a pas d'équivalence entre ça. Puis les discours haineux qu'on entend en ce moment dans les médias, dans certains médias ou dans même dans la bouche de certains politiciens, on l'a vu la semaine passée, une élue d'Anjou qui avait un discours ultra intolérant ouais. envers une médecin spécialiste, donc qui portait le voile. Donc, je trouve que c'est dangereux de faire le parallèle. C'est vrai que, tu sais, on veut aller ni dans un extrême ni dans l'autre, puis il y a des torts qui sont attribuables à l'extrême gauche, mais c'est vraiment un phénomène beaucoup plus marginal en ce moment au Québec.
Mm-hmm. C'est intéressant, là, tout ce qu'on vient de dire. Il y a plein d'affaires que j'aurais envie de...
Stock,
t'as-tu vu mes yeux, là, qui étaient essayés de poigner plein d'affaires dans ce que venait de dire Judith? On va aller à la pause. J'aimerais ça vraiment entendre les gens là-dessus. Il y a déjà des gens qui veulent intervenir, alors on va vous donner la parole. Est-ce que vous avez l'impression là, que... Il faut faire partie d'un certain groupe pour avoir le droit de dire certaines choses qu'en général, on peut plus rien dire parce que tout le temps, quelqu'un, au moins une personne qui va se sentir offusquée, frustrée, pointée du doigt et qui va vous renvoyer un commentaire de genre, c'est-à-dire une étiquette, t'es ci, t'es ça, bon. Alors, 514-790-9850. Pour nous joindre de partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Alors, on va aller voir ce que nos auditeurs pensent de notre discussion. On s'interroge vraiment sur la teneur des discussions qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se parler franchement? Est-ce qu'on est encore habilité à s'aventurer sur un sujet qu'on connaît moins? Je veux dire, moi, je revendique le droit de poser des questions, de parler de choses que je maîtrise peut-être pas, puis de voir si l'autre, qu'est-ce qu'il va me répondre. Je veux dire, ça s'appelle, savez-vous quoi? Une discussion. Moi, les monologues, ça a tendance à me tanner. C'est pour ça que je vais arrêter ici, puis je vais parler tout de suite à Alex. Salut, Alex.
Oui, bonjour, madame.
Vous en pensez quoi? Isabelle, ça va être bien parfait.
Oui, bien, moi, concernant moi, je trouve que de plus en plus, si on n'adhère pas à l'idéologie de gauche, on se fait limiter dans notre liberté de parole. Mm-hmm. D'autant plus, puis un autre point aussi, si on est un homme blanc en plus.
Ouais.
Concernant l'idéologie de gauche, la madame disait tantôt que les idéologies de gauche portent moins à la violence que les idées de droite, c'est complètement faux. Lorsqu'on on s'adonne à une idéologie, on limite notre pensée, on donne notre droit de penser un peu comme aux religions. On arrête de réfléchir. Puis, historiquement parlant, si la madame faisait ses devoirs, elle se rendrait compte que peut-être, pas peut-être, elle se rendrait compte que les idées de gauche ont donné lieu à des encore plus grands massacres que des idées de droite.
Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Je suis d'accord avec vous, puis j'ai fait mes devoirs. En fait, je disais au Québec aujourd'hui, en ce moment, mais je suis bien d'accord là, que la gauche a eu ses moments de dictature et tout.
Oui, je suis pas
niaiseuse. j'aimerais revenir sur votre liberté d'expression.
Terminez, Alex, là-dessus, oui.
Oui, attendez. Regardez, pour le discours de l'homme blanc, comment ça se fait qu'il y a des Russell Peters qui peut se moquer de tous les races, mais un homme blanc ne peut pas se permettre de ça? L'autre fois, il y a une journaliste de Voir qui a dit que le problème, entre autres, des armes à feu, là, que c'était un problème des hommes blancs qui refusaient d'enregistrer leurs armes à feu. Mm-hmm. Si la même personne avait dit que c'est un problème d'hommes noirs ou d'hispanos, imaginez le tollé que ça aurait fait. Pourquoi c'est bon pour papa? C'est pas bon pour maman et vice-versa. C'est là-dessus, moi, que j'en ai.
C'est une bonne question, Alex. Je vais donner le droit de parole et le droit de réponse à Judith et à Dany Saint-Pierre qui est avec nous. Merci, Alex, de votre appel, Judith.
Mais moi, la façon.
C'est intéressant ce qu'il dit.
Oui, puis son point sur la liberté d'expression, je trouve ça intéressant parce qu'on dit. Quand on dit on n'a plus le droit de dire ça, en fait, ce qu'on dit, c'est on n'a plus le droit de le dire sans se faire répondre.
C'est ça.
Donc, il n'y a personne qui vous interdit de dire ce que vous venez de dire. Mm-hmm. Puis, j'entends votre frustration, puis je la comprends. En ce qui a trait à la situation dont vous avez décrite, de laquelle je ne suis pas au courant, donc je ne vais pas m'exprimer sur cette situation-là précise, mais moi, j'aime ça réfléchir à la liberté d'expression en termes de pouvoir. La raison pour laquelle vous avez l'impression qu'effectivement, on peut mettre tout sur le dos des hommes blancs, puis qu'on a plus de gêne à parler contre les hommes noirs ou contre les femmes.
C'est vrai,
C'est vrai. Mais
Dany, t'es d'accord?
C'est qu'encore aujourd'hui, les hommes blancs ont le haut du pavé, ont le gros bout du bâton.
Veux-tu reculer, s'il te plaît, faire la place?
Vous êtes une majorité. Vous êtes en minorité, mais vous avez encore le pouvoir. Vous êtes encore dans les sphères de pouvoir politique, médiatique.
Tout à fait.
Donc, c'est ça l'enjeu aussi. Donc, c'est peut-être plus difficile pour les groupes minorités de se défendre. Donc, il y a peut-être une plus grande considération de cette dynamique de pouvoir.
C'est intéressant parce qu'entre autres, ce que tu dis, Judith, c'est qu'il y a des groupes privilégiés. Il y a des groupes, et même de plus en plus, puis ils prennent de plus en plus de lumière. Puis c'est correct, tout le monde a le droit à son bout de lumière. C'est Warhol qui disait, chacun devrait avoir son 15 minutes de gloire, mais tu devrais avoir ton...
Je pense qu'on l'a dépassé, nous. Mais...
Oui, ça, c'est plus que 15 minutes, c'est sûr. Mais nous, on est privilégiés. Fait que ça vient de finir, tu comprends?
Oui, mais en même temps... Moi, je trouve ça...
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des groupes de pression, des lobbies, qui ont une certaine idéologie, puis je cherchais dans ton lexique, puis peut-être que j'aurais rajouté idéologie entre gardienne du sentier et hétéro-normativité ou intersectionnalité.
Oui, oui.
T'sais? Parce que l'idéologie, c'est ça, c'est véhiculer une idée, mais...
Ben, dans mon vocabulaire, j'ai pensée dominante. Puis une idéologie, c'est une pensée qui domine, mais l'idéologie, elle peut être à gauche comme à droite. En ce moment, la pensée qui domine est plutôt centre-droite, j'aurais tendance à dire. Les gens qui sont au pouvoir en ce moment se disent de centre-droite. Donc, je pense... Les idéologies, il y en a à gauche comme à droite. Là.
On crée un nouveau langage.
Ouais.
Surtout pour nos politiciens, pour les gens qui nous dirigent, là, qui est complètement hermétique, qui est une nouvelle langue. où tu peux plus vraiment nommer avec courage et conviction ce que tu veux, d'un côté comme de l'autre, hein, on s'entend. C'est une patate chaude constante. Fait que là, on a des gens qui peuvent nous parler 10 minutes de pratiquement rien avec, avec des phrases qui sont en boucle. Puis c'est ces gens-là qu'on élit. Fait que ça veut dire que oui, tu peux dire ce que tu veux. Oui, tu vas te faire répondre. Mais qu'est-ce que tu réponds à ces réponses-là?
Est-ce que tu veux dire qu'on va aller de plus en plus dans la langue de bois avec ce genre d'approche?
Sérieusement, moi, j'écoute ces gens-là parler puis j'ai des échardes dans les oreilles la plupart du temps.
Est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça, Dany?
Ben, je pense que...
En ce qui concerne les politiques, là.
On a eu des politiques qui étaient vraiment rudes puis clivantes.
Mais dès qu'il y a un politicien qui déroge de cette espèce de ligne...
Il s'en fait garrocher.
À gauche comme à droite, ils
avaient. Exact.
Quand on reprend l'exemple de Catherine Dorion, elle porte une tuque puis elle se fait varloper, elle dit
on est revenu de sa tuque. Moi, je trouvais ça cute. Porte une tuque. Ça fait changement.
Elle représente les gens qui l'ont élu.
Ça fait changement.
Au même titre que les autres personnes qu'on a élues représentent les gens qui les ont élus.
Par exemple, je ne veux pas revenir sur l'histoire de Duhem parce qu'en plus, ça considère. C'est une citation de Cogeco. Moi, je ne veux pas me mêler de ça. Mon employeur le fait avec ses avocats. Fait que moi, je me mets en marge de ce débat-là.
Je peux en parler, moi, si tu veux.
Oui, mais non, mais ce que je trouve juste comme citoyenne, je regarde ça puis je me dis, il n'y a personne au Québec. Je veux dire, Éric Duhaime, je ne pense pas qu'il incite au meurtre, ce que sous-entendait Catherine Dorion un peu dans son langage. Donc, il y a quand même, il y a des choses que tu ne peux pas dire comme ça. Il faut quand même faire attention.
Mais moi,
ça a toujours été ça.
Quand même ironique.
Vas-y, Judith,
je trouve ça ironique qu'on parle de liberté d'expression puis qu'une femme qui est peut-être allée fort avec ce mot-là, le meurtre, mais en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que les médias, on a tous le rôle là, du climat social dans lequel on est en ce moment au Québec. Elle accusait ce pouvoir-là qu'on a. Puis après ça...
Mais je veux dire, c'est pas parce que tu as une tuque...
Que
tu peux dire des gros mots pareils. Oui, pense-y avant.
Je comprends, mais ça fait des années qu'il y a des radios, puis là, je parle pas d'Éric Duhaime, mais je parle des radios d'opinion à Québec qui tiennent des discours ultra-violents envers les femmes, les personnes handicapées, les gens sur le BS, donc, il y a comme...
Mais il faut les ignorer, vous pensez pas?
Ces gens-là ont tellement
un grand pouvoir.
Nous, on les ignore, mais ces gens-là, il y a des gens qui les écoutent, puis petit à petit, puis d'un côté comme de l'autre, se ramassent à faire « Ah ben oui, ça a de l'allure, ça. Ah ben oui, ça a du sens. Ah oui, puis ils deviennent attentifs. » Puis ils se laissent porter dans ça parce que leur quotidien ne leur permet pas de réfléchir plus longtemps, tu sais. Puis moi, quand je regarde des lexiques comme celui que tu proposes qui sont hyper intéressants, ben tu sais, on a une grande proportion de la population qui est analphabète fonctionnel. Ouais. Ça, c'est un fait, ce sont des statistiques. Fait que même si on est bon cœur...
Mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas comprendre ces concepts-là.
Non, c'est pas ça mon point. Mais c'est que c'est une façon de créer une petite frontière où ils traverseront pas.
Hey, je voulais parler à Jocelyn, fait que Jocelyn, bougez pas, ça va être après la pause. Bonjour Jocelyn, est-ce que vous vous sentez à l'aise de dire, de donner votre opinion, d'aborder différents sujets avec toutes sortes de gens?
Non, pas vraiment. Ce que j'aimerais dire, c'est que souvent, les gens, tu peux pas dire grand-chose aujourd'hui parce que tu vas toucher la sensibilité d'un, tu vas déranger l'autre. Les gens sont dans leur petite sensibilité, leur petite manière d'être. Parce que il y a comme, moi c'est comme ça que je vois ça, il y a comme plus de cohésion sociale, il y a comme plus de sujets qui nous relient tous. On dirait que on a toute notre petite opinion, on a tout le monde rangé de notre petite manière, puis on tombe dans le scrupule, on est comme scrupuleux, puis attention à ce que tu dis, puis la manière que tu dis. Surtout qu'au français, au Québec, on a de la misère à bien s'exprimer. On a de la misère à mettre vraiment des mots justes ce qu'on sent. Alors, ça devient compliqué. Les mots s'enchaînent. Ils veulent plus rien dire. Puis, c'est comme si, au travers de tout ça, en fin du compte, on perd le côté agréable de converser. Pourquoi on converse?
Est-ce que c'est un manque de compétences à discuter, vous diriez?
Un manque de compétences. La conversation, ça prend pas de la compétence. C'est pas ça. C'est un problème au Québec, en fait. Au Québec, il y a des problèmes très particuliers, hein, parce que ça va avec une quête d'identité. Puis c'est une quête d'identité qui est très profonde. Puis on se cherche. Il y a des endroits dans le monde qu'on ne cherche pas comme ça. On n'a pas de difficulté à parler.
Mais il y a des endroits plus vieux. On est un jeune pays à notre décharge. Là, il y a des endroits plus vieux. Ils ont eu le temps de se trouver. Mettons que nous, on est encore en recherche. Merci, Jocelyn. On a un autre Jocelyn qui nous appelle. Bonjour.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Oui. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, quand j'ai une opinion, parce qu'il y a toujours la différence entre une opinion et un fait, je vous donne un exemple. Il y a des gens aujourd'hui, en 2019, qui croient que la Terre est plate. D'accord? mais les faits, la science a prouvé hors de tout doute. Mais moi, je fonctionne un peu comme ça. Souvent, je donne l'exemple, c'est un peu comme quand tu vois qu'un joueur de tennis, plus il est bon, meilleur que c'est, parce qu'on peut avoir chacun notre opinion. C'est un peu ça, les discussions. Moi, j'aime parler à quelqu'un qui sait de quoi il parle.
Mm-hmm.
Parce que ça m'est arrivé souvent, moi, j'avais des opinions, j'étais convaincu, puis à discuter, puis à m'informer, puis à regarder les médias. Les médias sont là pour ça.
Ouais.
Je donne un exemple bien concret. Moi, j'écoute beaucoup les médias, puis j'ai remarqué qu'on parle souvent des musulmans, etc., puis je suis surpris de voir comment la grande majorité des musulmans, ils sont pour la laïcité.
Exact.
La question que je me pose, vous, les médias, mm-hmm. pourquoi vous ne le dites pas plus souvent que dans les faits, les musulmans, ils ne veulent pas rien savoir de l'extrémisme religieux qu'ils ont connu dans leur pays.
Mm-hmm. Mais je pense moi, qu'on le dit. Je pense qu'on le dit, mais on le dit. Je pense qu'on le dit. Puis moi, je demande régulièrement, quand même que moi, je le dirais. Je ne vais pas me faire de l'appropriation religieuse non plus. parce que, Jocelyn, comprenez-vous, moi, je suis une femme blanche, née catholique dans une famille non pratiquante, devenue agnostique. Donc là, ça me met dans une position où je peux juste regarder ça. Évidemment, de ma position privilégiée dans les médias, je peux quand même poser la question et encourager les musulmans racisés comme tels de s'impliquer eux-mêmes et de se lever.
C'est l'extrême qui fait la nouvelle aussi. Hein? Souvent, on voit ce qui est négatif. Ouais. Tu sais, c'est plate en maudit de dire « Regardez-moi cette belle famille intégrée. »
Tu peux pas dire « belle » parce que c'est une...
Qui est là en place, qui vit dans notre quartier avec nous puis qui vient au même barbecue que nous autres. C'est pas une histoire, ça. C'est pas une histoire, ça intéresse pas les médias, ça.
Ouais. C'est la majorité belle, de la vie. Parce que je
belle
pense
famille.
À ce que tu peux pas
c'est
dire.
C'est pas beau une belle famille.
Mais c'est parce que dans son essai, Judith.
On n'a pas le droit de dire ça.
Il y avait une histoire d'humoriste qui était arrivée quelque part puis qui avait dit, hey, vous êtes quelle belle foule ce soir.
Ah oui, non, mais ça, c'est une exagération. C'est une caricature, c'est justement,
ça.
Isabelle.
Elle s'est fait dire, je peux pas dire belle parce que c'est un jugement sur
notre apparence physique. Non, mais ça, c'était une caricature.
Oui, c'est pour montrer qu'on va bien trop loin.
Je trouve ça intéressant que tu dises, moi, je peux pas le dire parce que je suis... Mais c'est pas ça. Je pense que ce que monsieur dit, c'est qu'on devrait donner une image plus nuancée des musulmans. Je trouve ça, justement, les médias, on a du pouvoir, puis on devrait tenir compte des injustices dans notre façon de propager ces nouvelles-là. Combien de nouvelles négatives sur des groupes musulmans versus des nouvelles positives ou des nouvelles, puis comme disait Dani, quand c'est positif, il n'y a pas d'histoire, donc c'est mal parti.
C'est malheureux.
Mais il faudrait nous tenir compte de notre façon de couvrir
ces règles-là. J'espère que tout le monde le sait, là. J'espère que tout le monde le sait.
Je suis pas sûr.
Mais les gens se fient beaucoup aux médias pour se faire une idée du monde. Il l'a dit, Jocelyn. Donc, il faut aussi, nous, les médias, faire attention à l'image du monde qu'on propage.
Tout à fait.
Des props pour Jocelyn 1 et Jocelyn 2.
Ouais.
Ça va très bien.
Et il nous restait, il y a plein de monde qui voulait intervenir.
Go, go, go.
C'est Zachary. Vite, Zachary, il nous reste 30 secondes. On vous écoute.
Alors, très rapidement. Écoutez, je vous ai entendu depuis tout à l'heure et je trouve ça très, très pertinent comme discussion. Moi, j'ai été conçu à l'étranger et livré au Québec. Et j'ai eu l'opportunité de voyager à Québec, partir à Sept-Îles, Rivière-du-Loup, Rimouski, un peu partout. Et quand j'ai pris la parole avec ces gens-là, je leur ai dit j'ai honte. J'ai honte parce que je suis resté longtemps à Montréal, je ne suis jamais sorti de Montréal. Et le Québec, ce n'est pas Montréal. Mmh. Et déjà, on remarque qu'il y a une dynamique différente entre chacune des régions, des points de vue différents. Le second point que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai plusieurs communautés très influentes et très connues à Montréal. D'ailleurs, vos médias réutilisent mes propres contenus. Et ce que je peux voir, c'est que les gens sont désinformés et qu'il y a plein de faux comptes, il y a plein de petits mouvements qui créent des fausses nouvelles et qui poussent ça. Et on est dans l'ère de la désinformation totale.
Exactement. Il faut se méfier de ça, d'ailleurs. On va essayer, nous, de contribuer, en tout cas, à clarifier les choses. On va continuer à essayer de le faire avec des invités aussi pertinents que ceux qui ont été là ce matin avec nous. Judith Lucier, merci beaucoup. Je rappelle ton livre, « On peut plus rien dire, le militantisme à l'ère des réseaux sociaux ». Merci beaucoup, Dany Saint-Pierre.
Merci.